Les lectures de Lisel. Je vous présente aujourd'hui La Tour d'Arsenic d'Anne Ragde aux éditions Ballant. Quelques mots sur cette saga familiale nordique. J'en ai déjà présenté comme Cent ans d'Herbjörg Vasmeux par exemple, et je suis toujours sous le charme vénéneux de ces histoires de famille venues du Nord. On retrouve chez Anne Ragde des personnages de femmes imposantes et en même temps toujours en marge, comme au bord d'un précipice. Et ici, ça ne manque pas. Le nœud de cette histoire est une femme, Mali, ancienne chanteuse de cabaret qui meurt chichement dans une maison de retraite du fin fond de la Norvège. Et sa mort provoque un séisme intérieur chez ses descendants, surtout ses descendantes. Sa petite fille la pleure quand ses propres enfants sont prêts à danser sur sa tombe. Dans un mouvement de va-et-vient entre époques, chaque personnage évoque ses souvenirs de cette femme, mère, épouse, bête de scène, alcoolique notoire, grand-mère adorée. Le tout dessine un portrait de femme très fort et plein de contrastes. Il nous plonge dans une ambiance scandinave assez particulière qui en même temps parle de toutes les familles. Un extrait. Les valises n'étaient pas fermées à clé. Maman avait menti. J'avais au moins 2 heures devant moi. Dans le placard de la cuisine, il restait une bouteille de gin à moitié pleine. Elle n'avait pas réussi à la finir. Il n'y avait pas de tonique à la maison. Je pris de l'extrait de citron pour le thé et des glaçons et remplis le verre d'eau jusqu'aux petites violettes. Je trouvai la table au plateau en verre encadré de rotin et la portai jusqu'à la fontaine, dehors, ainsi qu'un fauteuil en rotin. Je bus la moitié du verre avant de rentrer ouvrir les valises. « Je vais choisir ce qui m'ira le mieux, d'accord ?» Tu sais bien, grand-mère, que moi, je n'ai jamais eu des allures de diva. Ça, c'était surtout à l'époque où j'étais ta petite princesse. Les étoffes jaillirent, libérées de leur couvercle, ces draperies si légères grandirent, comme si des êtres vivants les habitaient. Elles émirent des bruits merveilleux, les paillettes cliquetèrent, les petits cupidons cousus dans le tissu s'entrechoquèrent. J'évitais de regarder la poussière, les traces de sueur aux encolures et aux poignets. Par-delà l'odeur de vieillerie, je devinais le parfum de jeune fille de grand-mère, le parfum enchanté de la rose. Je retirai tous les costumes des valises et les disposai sur les couvercles ouverts et les chaises les plus proches. Des robes, des pantalons ruchés bouffants, des jarretières, quelques coiffes aplaties ayant servi dans les comédies, des foulards à la Isadora Duncan dans tous les tons pastels. Aucun des costumes ne portait d'étiquette désignant l'héritier, comme maman le prétendait. Je trouvai celui que je cherchais. Il me serrait trop. Je laissai la fermeture éclair ouverte dans le dos. Je m'assis au soleil près de la fontaine, entre les hautes haies, à la table de grand-mère, dans un des costumes de l'ange bleu. Ce fut son dernier rôle avant la naissance de maman, en 1933 vraisemblablement. Une Lola Lola danoise qui prit la capitale d'assaut et de rire. Elle chantait pour moi. J'étais son seul public. Je me rappelle que je pensais alors, sa voix devait être belle quand elle était jeune. Elle avait beau prétendre que le menthol l'adoucissait, elle était devenue sèche et éraillée après tant de cigarettes. J'étais une petite fille qui, ravie, se laissait subjuguer par une grand-mère qui se costumait pour moi et dansait, la tête penchée et le menton en l'air. « C'était celle de Marlène, en réalité, » expliquait-elle. J'ignorais de quoi elle parlait, mais m'empressais de hocher la tête. Elle tournait sur elle-même, les bras tendus tout en chantant sur le même air. Après quoi, elle était triste et souhaitait se reposer. Elle voulait pleurer sur le lait répandu, disait-elle, et me demandait d'aller faire un tour à la plage un moment. Je caressais le col marin, serrais entre mes doigts un bouton bleu foncé, large et plat, et regardais mes propres jambes nues, plantées dans l'herbe. Elle estimait que ce costume était beaucoup trop masculin pour le rôle, ou bien trop masculin pour elle, en dépit de la jupe effrontément courte. C'était probablement le col marin qui masquait une trop grande partie de ses attraits. Un ange bleu, le bleu de l'innocence, bien différent des anges noirs comme du charbon, qui selon maman et Ib, veillaient maintenant auprès de son lit. Une artiste de cabaret si avide d'être portée au nu que pas même le professeur Unrat, ni un simple peintre sur porcelaine follement amoureux, n'était parvenu à remettre en cause sa fureur de vivre. Tout le portrait de ta grand-mère. Tu as été étouffée, grand-mère. Étouffée par la grisaille. Et tu as fini par te rendre ridicule à force de vouloir mettre de la couleur sur tout. Est-ce la raison pour laquelle ils te haïssent ainsi? Est-ce la raison? L'extrait de citron dans le deuxième verre avait un goût de colorant artificiel et je compris que c'était la fin. Je remballai tout. Je ne déroberai pas de costume. Le musée convenait mieux, l'honorerait davantage. Je repoussai les valises sous le lit. Lorsqu'ils revinrent du centre-ville, je détaillai le visage de maman. J'y cherchais les traits de grand-mère, mais n'y trouvais que les miens. C'était un extrait de La Tour d'Arsenic d'Anne Ragde.
C'était les lectures de Lisèle.